Bonjour à toutes et à tous. Par ici, les sorties magazine culturel de Radio Grand Ciel vous est aujourd'hui présenté par votre serviteur Christophe Jubien. Mon invité est Olivier Clémence, musicien oboïste, enseignant, spécialiste de la musique baroque, président de l'association Euréliade. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Dimanche 15 juin à 14h30 en l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers, vous nous invitez à un concert thématique. Le violoncelle baroque est à l'honneur des origines au siècle des Lumières. À l'affiche, l'ensemble Boccherini que vous nous présenterez tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais que les quelques auditeurs qui ne vous connaissent pas encore en apprennent un peu sur vous quand même. Vous avez commencé votre formation musicale en étudiant la guitare classique, je crois. Comment le hautbois s'est-il imposé à vous ?
Ah oui, c'est une longue histoire, évidemment, je vais la résumer. Alors bien sûr, guitariste, guitare au bois, il n'y a pas de correspondance directe. Simplement que ce qu'on peut distinguer, c'est que la guitare est un instrument polyphonique pour lequel on gratte les cordes. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant de nombreuses années, je me suis formé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est beau la guitare, mais on est un peu seul. Voilà. Et puis en plus, je délivre un petit secret qui n'est pas un secret. En fait, j'ai appris le hautbois pour faire plaisir à une jeune fille que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est la vraie histoire. Et le hautbois, je trouvais qu'il exprimait très très bien justement le charme et ces choses-là. Et donc je l'ai appris tard dans un parcours de musicien à l'âge de 18 ans et avec beaucoup énormément de passion. Voilà, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé le hautbois.
Ouais. Et ça vous arrive encore de gratouiller la guitare ou pas du tout?
Eh ben la guitare, elle dort tranquillement dans le grenier pour l'instant. Je la laisse à des interprètes de grande qualité que j'écoute avec plaisir. Donc pas trop la guitare. D'autres instruments, le basson, un peu de flûte à bec, etc. Mais pour l'instant pas guitare.
Des instruments en vent.
Oui, ouais. Instruments en vent.
Alors je décline vos qualités. Vous avez obtenu un premier prix au CNR de Saint-Maur avant d'être diplômé de musique ancienne au CNR de Paris en hautbois baroque. Vous produisez en concert dans de nombreux ensembles, alors qui sont très connus des amoureux de la musique baroque, les arts florissants, les musiciens du Louvre, le concert spirituel, la symphonie du Marais, j'en passe. Alors je sais bien que le concert dont vous allez nous parler aujourd'hui met à l'honneur le violoncelle, mais moi j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de votre instrument, le hautbois, d'autant que vous ne faites pas qu'en jouer. Vous avez entrepris des recherches sur la facture instrumentale du hautbois et je viens d'apprendre que finalement vous êtes aussi facteur de hautbois. Alors on consacrera une émission là-dessus parce que c'est, je trouve ça très intéressant. Mais alors vraiment, c'est devenu une passion du coup, le hautbois.
Oui, bien sûr, oui, c'est une passion depuis toujours. J'espère qu'on va bien valoriser et parler de nos interprètes violoncellistes.
Pas de problème, je vous promets.
Donc je ne vais pas trop prendre de temps pour mon cas personnel. La facture instrumentale a découlé assez naturellement, je dirais, après 10 ans de pratique de hautbois baroque. Aussi pour une raison, c'est que je viens d'un milieu familial d'artisans, d'artistes, peintres, etc. Et que mon père maîtrisait beaucoup de techniques, voilà, artisanales, avec le métal, le bois, etc. Et en fait, bon, j'ai vécu là-dedans pendant de nombreuses années. Et tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi je me mettrais pas à fabriquer mes propres instruments, tout simplement. Et effectivement, c'est une grande passion dont l'intérêt, d'ailleurs, c'est que ça peut se développer très longtemps, de façon très approfondie. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup dans la réalisation d'instruments, c'est le dialogue avec les interprètes. Voilà, ouais. Quand je fais des instruments, pour que ça se passe bien, voilà, pour que l'interprète soit à l'aise avec l'instrument à tout point de vue. Et puis aussi, on fait de la recherche historique. Parce que les hautbois, voilà, il y en a beaucoup dans les musées, dans les collections privées. Mais c'est pas secret, mais quand on crée un instrument, quand on le copie, c'est pas juste un travail technique. C'est un vrai travail de recherche, de comparaison, et voilà, c'est passionnant.
Vendez-nous le hautbois. C'est quoi les caractéristiques de cet instrument qui ressemble un peu, alors je vais dire une bêtise parce que je suis pas un grand mélomane, alors qui ressemble un petit peu à la clarinette telle qu'on la connaît aujourd'hui en fait.
Oui, c'est ce qu'on voit à l'extérieur tout simplement. Oui. Alors ça, c'est l'instrument moderne, faut bien pas faire de conclusion, même s'il y a de nombreux hautbois historiques qui sont en ébène aussi. Donc la clarinette, effectivement, de loin, c'est un objet long et en ébène, et le hautbois aussi. La différence majeure, bien sûr, c'est que la clarinette à l'intérieur, elle est cylindrique. Et qu'elle les notes ne n'octavient pas, elles quintoient, alors que le hautbois, ce sont des octaves. Quand on change la note avec le même doigté, on obtient des notes à l'octave. Voilà, c'est la grande différence. Et puis, évidemment, le caractère d'expression de l'instrument.
Alors, oui, justement.
Et puis aussi, ouais, et puis la personnalité. Les personnalités, c'est pas faux de dire qu'un clarinettiste a un type de sensibilité, un oboïste, c'est très différent. Voilà, des fois, on en rigole un peu, mais voilà, c'est vrai.
Alors, c'est quoi votre sensibilité à vous, musicale?
C'est un peu un lieu commun, mais le oboïste, on va dire, il est le côté charmeur, un peu timide. Mais avec beaucoup de caractère. Hein. Voilà, j'ai une petite anecdote qui peut être sympathique. Pour, oui. Voilà, ça, c'est dans le cadre de l'enseignement. J'ai toujours adoré poser la question à des petits qui arrivaient dans la classe, tout petits, 5-6 ans, qui étaient juste avant de commencer. Et je me tournais vers les parents et vers l'enfant et je leur disais « Est-ce que tu es timide ?» Alors l'enfant, évidemment, un enfant, c'est souvent timide. « Oui, je suis timide. Est-ce que t'es têtu ?» Alors là, c'est les parents qui disent « Oui, il est têtu. »
Au bois.
T'as les bonnes qualités pour faire du hautbois. Voilà, têtu, il faut expliquer pourquoi. C'est que le hautbois, il y a très peu d'air qui passe. Et que pour jouer du hautbois, il faut vraiment avoir le caractère bien, bien accroché pour faire des phrases.
Voilà. C'est un instrument qui est très... on l'entendra hein, tout à l'heure, on se quittera avec du hautbois. Parce que c'est un instrument qui est vraiment oui, très charmeur, très, très méditatif, très, très méditatif presque, non ?
Oui, absolument.
Oui,
bien sûr.
C'est le répertoire pour le hautbois, c'est un répertoire essentiellement baroque ou est-ce que, évidemment, dans la musique classique également,
non, si on schématise, le hautbois est apparu au XVIIe siècle, voilà, ça a été créé en premier pour les opéras de Lully, hein, c'est la fameuse famille Hototer qui a créé les premiers instruments, pas très loin d'ici, à la Couture-Bousset, ça c'est important, c'est le repère géographique. Et donc en fait, on est parti de la chalémie qui était en une pièce et on a créé des hautbois en plusieurs pièces qui permettaient d'affiner, de faire plus de subtilité dans la perce. Et surtout de cet instrument-là, le but de cet instrument, c'est de l'associer au violon et aux autres instruments dans l'orchestre. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Mais le hautbois donc, a un très beau répertoire à la période baroque, un beau répertoire à la période classique, en toutes les formations, soliste, musique de chambre, orchestre. Aussi en orchestre plutôt au 19e et pas beaucoup en musique de chambre. Là, il y a un trou d'air, on va dire. Et ensuite, il a repris toute sa place fin 19e et 20e, voilà, puisqu'il est très présent aussi. Et puis, il faut ne pas oublier qu'il est très présent dans les musiques de films.
Dans les musiques de films, voilà. Oui.
Et les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, il y en a partout. Du hautbois, du cor anglais.
On va écouter Bach.
Ah oui, avec plaisir.
Voilà, on vient d'écouter du hautbois, Bach, cette pièce. Vous pouvez nous en parler, dire deux mots avant qu'on commence à parler du violoncelle.
Ouais. Cette pièce-là, toujours rappeler, puisque ça, beaucoup de gens l'oublient un peu, c'est que Jean-Sébastien Bach est de très loin notre plus grand compositeur. Il a écrit nombre de solos dans les cantates, les oratorios, les messes, etc. C'est un trésor illimité. On peut quasiment pas dire qu'il y a des beaux solos et des moins beaux solos, parce qu'ils sont tous très beaux, mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont plus extraordinaires. Celui-là est extrêmement prenant. La façon dont il s'exprime, c'est donc instrument seul, et dans l'extrait vous entendrez donc ça provient de l'oratorio de Pâques, qui est une très belle œuvre, pas moins connue que les autres grands œuvres de Bach de ce style, et c'est extraordinaire avec accompagnement de cordes, et vous entendrez par la direction de Philippe Hervègue et au hautbois le fameux Marcel Poncel.
Bach, c'est Dieu, quoi. Hein.
Ou presque. Absolument.
Alors parlons à présent du concert que vous allez donner, vous organiser. Un concert thématique sera dimanche 15 juin à 14h30 en l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers, l'ensemble Boccherini, deux violoncelles, du violoncelle baroque. Peut-être avant de parler vraiment là du concert, deux mots sur l'association que vous présidez, Auréliade, parce que vraiment elle est extrêmement intéressante. C'est une association évidemment qui donne à entendre de la musique, mais il y a aussi toute une dimension éducative à laquelle vous tenez beaucoup.
Bien sûr. C'est même l'origine de l'association.
C'est l'origine, ouais.
L'origine de l'association, c'est de mettre en valeur les élèves dans le prolongement de leurs études, c'est-à-dire au moment où ils ont le plus de compétences, en fait, hein, donc à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Souvent, voilà, je vais être gentil, mais les conservatoires oublient un peu qu'en fait, ça ne fait que commencer.
Oui.
Alors que dans un conservatoire, on a l'impression que c'est la fin. Pour avoir enseigné pendant longtemps en Eure-et-Loir, c'est-à-dire 30 ans en Eure-et-Loir, tous les gens qui enseignent s'aperçoivent plus ou moins fortement que au moment où on croit que c'est la fin, c'est le début en fait. Voilà. Et j'ai créé Auréliade pour cette raison-là. C'est pour que les élèves que je formais et bien d'autres disciplines, c'est pour ça qu'on va mettre en valeur le violoncelle baroque, trouvent une place, trouvent une façon de s'exprimer, puisque c'est pas toujours facile de s'exprimer musicalement dans toutes sortes de formes musicales.
Ouais. Alors, les concerts que vous organisez sont conçus vraiment comme des spectacles à part entière. Il y a toujours souvent en tout cas une thématique. Et puis, la musique est amenée à dialoguer avec d'autres arts. En 2024, par exemple, il y avait eu Dame Nature en mots et en notes, où la musique dialoguait avec la poésie. Vous aimez ça aussi, hein ?
Bien sûr. C'est la polyvalence des arts, hein, la danse, l'art théâtral, la musique. Et aussi, même d'une certaine manière, l'art pictural. Hein, donc, c'est le cas dans le spectacle que vous venez de citer. L'art pictural était présent sous forme de projection. Donc, je suis sensible à ça aussi. C'est mon milieu de familial.
C'est voilà. Votre milieu familial. Vous l'avez dit. Votre père est artiste.
Donc en fait, toute cette complémentarité des arts, il faut constamment s'en inspirer. On est bien d'accord, oui.
Alors, vous faites la part belle à la musique baroque, mais vous n'êtes pas sectaire hein, dans la musique dont on vient de parler, hein, dans le spectacle Dame Nature en mots et en notes, Mozart, Ravel, Debussy, tout le monde.
Absolument pas. D'une part, je ne suis pas sectaire, mais j'aime évidemment tous les styles musicaux. Je les pratique et je les ai pratiqués. Donc Auréliade est tout à fait polyvalente en style, aucune restriction de ce côté-là.
Votre goût personnel ? C'est quand même la musique baroque, plus que la musique dite classique.
Oui, je la pratique beaucoup, parce que c'est la réalité professionnelle. Mais il y a des musiques absolument extraordinaires jusqu'à nos jours. Je voudrais juste en prendre deux, mais Ravel et Debussy, par exemple, qui émergent parmi les compositeurs français, c'est à tomber par terre. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et ne pas oublier qu'il y a des analogies, hein, c'est-à-dire que la forme paraît, elle est contemporaine de Debussy, Ravel ou d'autres auteurs plus proches de nous. Mais ça emprunte pratiquement toujours un matériau qui est lointain, hein, avec d'autres périodes, hein, pas que la période baroque, on oublie souvent, même si elle est de plus en plus présente, la Renaissance et le Moyen-Âge. Voilà. C'est une période extraordinaire aussi, qui est aussi la source, une des sources musicales en harmonie, en expression et en rythme. Le rythme qui est à la base.
Oui,
de
et dans
musique.
La musique baroque aussi, parfois, moi je ne suis pas un mélomane, mais j'ai une petite oreille quand même. Parfois j'ai eu le sentiment d'entendre des trucs que le jazz va récupérer
bien sûr, bien sûr.
Des centaines d'années plus tard. Quoi.
Alors le violoncelle.
Oui. Le violoncelle, ben on y vient bien sûr.
Oui.
Le violoncelle baroque,
c'est
à
très
l'honneur
beau, le violoncelle.
Des origines. Voilà. Au siècle des Lumières, c'est donc dimanche 15 juin à 14h30 en l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers. Alors vous allez nous présenter peut-être l'ensemble Boccherini, peut-être le violoncelle baroque, il y a une grosse différence avec le violoncelle classique.
Ben, oui, bien sûr, il y en a une très importante. Elle est dans son répertoire, bien sûr. Son style de jeu, c'est très important. Donc on a la fameuse chose repérable tout de suite, c'est pas de pique. Hein. Donc on a une pique avec le violoncelle moderne qui sert à stabiliser l'instrument. Et puisque évidemment dans la virtuosité, le violoncelle moderne a besoin de cette pique. En violoncelle baroque, pas de pique. Donc c'est tenu entre les jambes et le jeu est très différent. La tenue de l'archet est différente, l'expression. Et on va dire, puisque ça c'est un point commun entre beaucoup d'instruments, pas seulement les cordes d'ailleurs, hein, les cordes, les vents, etc. Dans la période moderne, plus de sons plus forts, plus de projections, alors que la période baroque, on s'exprime en résonance. C'est très important, j'y tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire, plutôt que le son percute, soit fort et droit devant, pas que droit devant, mais en musique baroque, c'est un rond, c'est un cercle. Le son s'exprime en cercle. Donc on joue de ça, donc c'est une grande sensibilité, voilà. Et donc là, nos interprètes qu'on va citer, Léna Toré et Marie Akagawa, qui sont à l'origine de ce projet-là, qui ont fait connaissance il n'y a pas très longtemps et qui ont beaucoup sympathisé et qui ont beaucoup d'estime, j'ai constaté quand elles jouaient que c'était formidable. Et on a lancé ce projet pour... Ce qui est très intéressant dans ce concert-là, c'est qu'on fait une petite rétrospective, en fait, des origines, hein, c'est bien le titre, hein, c'est le baroque des origines à nos jours. Les origines, c'est l'Italie. Voilà, c'est important de dire ça. Le grand facteur qui a donné la forme au violoncelle, les premières formes au violoncelle, c'est Amati, voilà, qui est très connu, pas seulement au violoncelle. Et donc elles vont jouer des instruments d'époque, des copies d'instruments d'époque, et associées aussi, il faut les mentionner, puisque en fait, ce qui est très intéressant, il n'y aura pas que deux violoncelles, non, ou un violoncelle, il y aura quatre basses, on va dire quatre basses, avec leur partenaire, Volodia Lambert au violonnet, hein, qui est l'instrument en forme de viol de gant, justement, qui est une basse, qui est la forme de la contrebasse, mais de cette époque-là. Et l'autre partenaire, le claveciniste, qui est fondamental, c'est Armin Yaldae, avec qui il va jouer sur un beau clavecin dans l'église de Saint-Hilaire.
Voilà. Les instruments baroques sont extraordinaires, sont souvent très très beaux. On trouve encore des facteurs, de nombreux facteurs en France pour ces instruments.
Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, voilà, pour être facteur moi-même, je regarde et je fais des recherches et je discute beaucoup sur tout ça, sur tous les facteurs. Tout récemment encore, je parlais avec un trompettiste donc sur la facture des cuivres. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un moment de basculement. C'est très important. On a eu, il y a 30 ou 50 ans, on va dire, les pionniers, hein, de la facture des instruments anciens, qui sont devenus des très grands noms. Hein. On a, voilà, par exemple, en hautbois, on a Olivier Cotet en France, et d'autres très grands noms, et on est dans la période où ils sont en train de passer la main, mais comment ça va se passer? Alors dans toutes les disciplines, clavecin, violoncelle, corde, vent, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, etc., il y a en ce moment des nouvelles générations, on va dire des 25, 30 ans, 40, qui commencent une carrière, mais qui ont beaucoup de choses à apprendre. Voilà, donc c'est une période de basculement, il faut regarder ça avec beaucoup d'attention.
Et sinon, on peut faire, j'imagine, appel à des facteurs étrangers. C'est une internationale des facteurs de musique.
Bien évidemment, ouais. Bien évidemment. D'ailleurs, en France, on n'a pas tous les représentants en facture. On a des très bons facteurs de clavecin, mais en hautbois, on a d'autres très bons facteurs en Hollande, bien sûr. Marcel Poncel est un facteur de hautbois, par exemple. Alfredo Bernardini, un grand. Il y en a en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, faut évidemment faire appel. En musique baroque, on partage beaucoup, on échange beaucoup. Donc, c'est aussi un des états d'esprit que j'apprécie beaucoup dans cette communauté musicale.
Et puis, un public aujourd'hui. Les fondus de baroque sont. Enfin, les gens qui aiment le baroque sont des fondus de baroque, souvent. Hein.
Bien sûr.
Il y a une passion. Hein.
Bien sûr.
Ouais. Oui. On va écouter Vivaldi.
Et très bonne idée.
Qu'est-ce qu'on va écouter là, de Vivaldi ?
Sonate de Vivaldi, RV 46 en si bémol, le dernier mouvement allemande, si je ne dis pas de bêtises, interprété par Christophe Coin, qui est un des plus grands violoncellistes tout court, et violoncelliste baroque, également viol de gambe, et qui d'ailleurs, la communauté prépare la fin de son enseignement au CNSM de Paris, puisqu'il a formé de nombreux interprètes de talent, que je connais, pour la plupart ce sont des amis, et ça c'est un moment très important, ça sera en septembre, donc j'espère que j'y serai, et j'invite les gens. Voilà, faut citer Christophe Coin, c'est une très belle interprétation.
On écoute Vivaldi. C'était Christophe Coin, qui est, vous nous l'avez dit, à la fois violoncelliste classique, violoncelliste baroque, et qui joue de la viole de gambe. Alors, la viole de gambe, c'est extrêmement important dans l'histoire, si j'ose dire, de la, peut-être du rapport entre le public et la musique baroque. On se souvient du film Tous les matins du monde. Ça, est-ce que ça, ce film-là a permis à la musique baroque de devenir peut-être plus proche du grand public?
Oui, bien sûr, il a joué un rôle très important, toujours d'ailleurs, ça continue. Oui. C'est un très beau film, et l'univers de la viole de gambe est extraordinaire. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tout un univers, même des personnages, donc Forqueray par exemple, qui est considéré comme un personnage très particulier. Voilà, donc c'est autre chose, c'est un autre univers. Ce sont des univers qui se sont côtoyés, mais qui sont assez distincts. Ouais. Voilà. Et en plus, qui est la viole de gambe, qui n'a pas perduré historiquement.
Ouais. Alors, parlons du programme de ce concert. Donc, je vous rappelle la date, dimanche 15 juin à 14h30, en l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers, l'ensemble Boccherini, deux violoncelles. Alors, j'allais dire un violon, donc c'est violonné, et un clavecin. Que vont-ils jouer?
Alors, on va donc partir des débuts du violoncelle baroque, en Italie, et on va arriver en France, et au fait, il y a un petit passage vers l'Espagne, avec Boccherini, qui est le nom de l'ensemble. Donc vous allez entendre, vous allez avoir le plaisir de découvrir une œuvre assez ancienne dans du Vitali, c'est la fin de la Renaissance. Pareil avec Domenico Gabrielli, une pièce pour deux violoncelles et basse continue de Vitali, et ensuite un canon pour deux violoncelles seules. Ce qui est très intéressant dans ce programme aussi, c'est que vous aurez plein de formes musicales. Oui. Vous aurez du violoncelle solo, il y a une petite surprise. Voilà, je le dis pas maintenant, mais enfin si, on va dire que c'est Bach. C'est Bach, les fameuses suites de Bach. Bon, je dis pas ce qu'elles jouent, mais elles feront découvrir au public. Et il y aura des pièces à trois, et il y aura aussi des pièces à quatre. Par exemple, cette pièce très connue par les bassonistes et les violoncellistes, qui est le Phénix de Corrette, de Michel Corrette. Donc ça, c'est fantastique, c'est plein d'énergie, c'est charmant, c'est très belle musique. Voilà. Et puis le violoncelle a un pouvoir d'expression aussi très particulier, avec ses attaques, comme on dit, sa suavité, qui a certaines analogies aussi avec le hautbois, disons, on va dire, en timbre, voilà, dans certaines tessitures.
Ouais. Suite pour violoncelle de Bach, on a l'habitude de les entendre au violoncelle moderne, non? C'est au violoncelle baroque quand on les entend,
oui,
généralement?
Oui, bien sûr, on les a beaucoup entendus au violoncelle baroque, elles sont très belles, les interprètes sont excellents, ouais. Mais l'interprétation a beaucoup évolué, et il faut écouter ça avec beaucoup d'attention. Ouais. Puisque elles sont beaucoup interprétées au violoncelle baroque. Il était fait pour, faut pas l'oublier. Hein,
ouais. Voilà. Interpréter une œuvre sur un instrument baroque, c'est totalement différent. L'approche est différente par rapport à un instrument classique.
Résolument. Hein,
vraiment?
Ben oui, parce que je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. On travaille en expression. Alors, faut aussi faire une distinction importante, même si c'est simplifié. La musique italienne et la musique allemande sont plus des lignes. Hein. Il y a des très beaux ornements. Il y a des ornements. C'est très diversifié. Mais en musique française, on a les fameux ornements qui s'appellent les agréments, qui sont spécifiques de la musique française. Et là, on prend tout son temps de les exprimer. Voilà. Et par exemple, certaines personnes du public ne remarquent pas toujours qu'on n'a pas le même diapason quand on interprète du Rameau. Alors c'est encore autre chose. Rameau, c'est l'équivalent de Bach, c'est le grand grand Rameau dont on parle pas toujours assez. Mais moi, j'ai eu la chance de beaucoup le pratiquer avec les grands ensembles et d'enregistrer des disques aussi. Dans Rameau, l'ornementation est fabuleuse, et dans la musique française, Couperin, Hauteterre, etc. Toute l'expression se fait avec beaucoup de subtilité et d'intériorité.
Je rappelle, on arrive au terme de cette émission, je rappelle donc le violoncelle baroque à l'honneur des origines au siècle des Lumières, dimanche 15 juin à 14h30 en l'église Saint-Hilaire de Mainvilliers. Il faut réserver ou est-ce qu'on peut venir sur place directement ?
Entrée libre, donc vous n'avez pas besoin de réserver, vous venez, et si vous êtes inspiré, le programme vous plaît, on vous demandera peut-être quelques sous pour soutenir l'association.
Ouais, le contraire serait étonnant. Hein.
Oui, à notre époque, on ne sait pas.
Un grand merci à vous, Olivier. On va se quitter avec un troisième morceau de violoncelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, j'ai pas toutes les références. Là, il s'agit, si on a bien choisi ensemble...
Le Phénix, concerto.
Ah oui, c'est correct, oui, c'est ça. Donc, très important de rappeler aussi qu'il y aura la moitié du programme soit consacré à des œuvres françaises que je cite rapidement. Donc, Jean-Baptiste Massé. Sonate pour deux violoncelles et basse continue. Jean-Baptiste Barrière, qui est très connu des violoncellistes aussi, et là une sonate à trois de violoncelles et basse continue également. Michel Corrette, Le Phénix, qui est écrit pour quatre basses. Voilà, c'est ça que vous allez entendre. Et vous allez entendre le troisième mouvement à trois, voilà, qui est très enlevé.
Merci beaucoup. On se retrouve à la rentrée pour parler du hautbois, si vous le voulez bien, de la facture du hautbois et de l'instrument lui-même.
Avec grand plaisir et merci pour l'invitation.
Merci beaucoup. Chers auditeurs, auditrices, par ici les sorties, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pourrez réécouter bien sûr l'émission en podcast sur notre site www.radiorentiel.fr. À très bientôt.